sur le bout de la langue. Ça va faire des histoires. Une émission proposée par Virginie Komaniecki.
Je suis entrée dans une forêt sans arbres, la tête la première. J'ai suivi un fil d'eau intarissable. Il m'a tout raconté sans dire un mot. À la source des sources, j'ai vu se mélanger des récits de partout, de longtemps, de toujours. Il parlait avec aujourd'hui et demain les écoutait alors, à pleine bouche, j'ai puisé. J'ai tourné ma langue cette fois. Tu me crois ? Tu ne me crois pas ? Pourtant c'est là. C'est sur le bout de ma langue. Derrière les yeux fermés. Fermez encore les yeux. Et alors, même les pierres se mettent à vivre. Si Tirésias n'avait pas rencontré deux serpents, son destin aurait été sans histoire. Ça commence comme ça, une histoire. Avec un accident, ou avec un serpent, ou deux, ce qui revient au même. Sur son chemin, ce jour-là, deux serpents sont en train de serpenter au tournant, deux serpents en train de faire l'amour, de s'accoupler, d'y prendre du plaisir, de se reproduire, on ne sait pas. Aucun des mots ne va, moi je parviens pas à voir, à me faire une image avec deux serpents pris dans les jeux de l'amour du corps, il n'y a rien à faire, ça colle pas. Et pour Tirésias, c'est pareil, ça colle pas, il n'y a rien à faire. Il les frappe avec son bâton et il tue la femelle. Aussitôt, il se transforme. À son torse, deux beaux seins lourds éclosent. Ses hanches s'arrondissent et au centre du corps se creuse cet antre profond, profond par lequel il lui sera désormais donné de vivre ses peurs, ses douleurs, ses extases, ses délices. Une femme. Il est devenu une femme. Et à partir de ce jour et pour un temps de sa vie, Tirésias va vivre, aimer, sentir, vibrer, filtrer le monde à partir de son état de dame, état de dame, état d'âme, vague à l'âme, il est femme, profond. Profond, il ressent et filtre tout. Le sixième sens affûté comme une lame de fond. Et pendant 7 ans, il sera femme et il va aimer ça. Et puis la vie, qui est quand même une sacrée drôlesse et qui s'amuse à nous refiler de la répétition, pose à nouveau 2 serpents accouplés sur le chemin de Tirésias. Et lui, bah, il les frappe à nouveau et cette fois-ci, il tue le mal. Instantanément, il se change en mâle, avec des attributs mâle, pas mâle, très bien même. Tirésias retrouve son état d'homme, sans état d'âme, ad libitum. Homme, il continue son chemin, et tout aurait pu finir là. Mais voilà un nouveau tournant sur le chemin de Tirésias. Hera et Zeus l'attendent, et tous les deux sont en train de se quereller. Aujourd'hui, le sujet de ces deux-là, c'est le plaisir. Zeus prétend que c'est la femme qui prend la plus belle part de plaisir en amour, Hera prétend que c'est le contraire. La femme, non, l'homme. La femme, l'homme. Et Tirésias, justement, passe par là. Tiens, Tirésias, tu tombes bien. Toi qui sais, toi qui connais les deux, tu peux nous dire lequel de la femme ou de l'homme prend le plus de plaisir en amour ? Et là, Tirésias offre cette phrase magnifique qui a traversé la nuit des temps pour venir se plonger là, dans mon micro, aujourd'hui. Il, elle, sait. Ils, elles, leurs livres sans scier. Si le plaisir était un gâteau et qu'on le divise en 10 parts, l'homme en goûterait une seule tandis que la femme s'occuperait des 9 autres. Hera est un peu vexée d'être à la fois démasquée et démentie. Et elle décide de punir Tirésias. Elle le condamne à la cécité. Zeus, lui, il trouve la sentence un peu trop sévère, mais il ne veut pas trop contrevenir à la sanction d'Héra. Il tente cependant d'alléger la sentence. Il va ainsi offrir à Tirésias le pouvoir de comprendre le langage des oiseaux et puis le don de divination. Tirésias, désormais aveugle, ne sera privé de rien. qui vivra verra, il vivra longtemps et verra désormais profond, 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 et bien au-delà des apparences, au royaume des aveugles. Le borgne est invisible. Si la lucidité est la blessure la plus proche du soleil, comme le veut René Char, on peut dire, malgré une opinion largement répandue, que seul le regard de l'aveugle peut affronter le soleil. Être du côté de la nuit signifie ainsi se plonger aux origines des origines. La tradition veut que Homère ait été aveugle. L'image du barde aveugle est un lieu commun de la littérature grecque. Tous les poètes grecs ne sont évidemment pas aveugles, mais la pensée grecque associe très fréquemment cécité et pouvoir divinatoire. Ainsi, la figure du devin de Thèbes, Tirésias, dont je viens de faire le récit. Chez Platon, les habitants de la caverne peuvent être considérés comme aveugles également. Ils perçoivent, mais faiblement, la lueur du feu qui donne existence aux objets sous la forme d'ombre qui s'inscrivent sur la paroi qui leur fait face. Grâce au feu de la réalité empirique, ils sont plutôt malvoyants, tandis qu'ils scrutent les ombres en face d'eux. Une fois libérés de la caverne, ils pourraient se diriger vers la lumière transcendantale qui les éblouirait de son éclat. La cécité se trouve en quelque sorte au passage de deux mondes. Si nous voulons percevoir la lumière, nous sommes obligés de nous servir du point aveugle de la caverne comme élément de contraste pour jouir ensuite de la perception du monde ensoleillé. Nous pouvons ainsi parler de deux formes de cécité. Celle qui nous menace dans le monde empirique et temporel, et cette autre cécité qui ouvre le passage au monde des idées, à la visibilité pure.
Love came behind me. He came from the south. His breast to my breast, his mouth to my mouth. Ça fait longtemps de ça. Ça fait tellement longtemps de ça que si vous y étiez, vous ne serez pas ici maintenant. Ou si vous êtes ici maintenant, c'est parce que vous n'y étiez pas. Ça fait tellement longtemps de ça que c'est dans le temps avant le temps. C'est dans le temps que le monde y prenait leur temps. Maintenant, c'est le temps qui prend le monde. Dans ce temps-là, il y avait un chasseur. Pas n'importe quel chasseur, le chasseur. Cet homme-là, il connaissait toutes les bêtes du forêt. Il connaissait les repères, il connaissait où est-ce qu'il hivernait, où est-ce qu'il allait chercher de la nourriture. Il savait comment les piéger. Il les prenait avec arc et flèche, il les prenait avec lance. Et un homme généreux, un homme vaillant, cet homme-là, on disait de lui que si toutes les feuilles de l'automne étaient de l'or et l'écume des mers était de l'argent, il aurait tout donné. Il n'y avait personne dans son village qui avait faim, tout le monde habillé dans des belles fourrures. Mais il n'y a personne parfait, et lui, il y avait un défaut. Il y avait le défaut qu'il aimait ça, le jeu. Il aimait jouer avec les dés en os. Dans le temps que je vous compte, ce matin-là, il est parti à la chasse avec lance, arc et flèche. Et prenant les chemins dans le bois, il tourne un coin, puis devant lui, un vieillard. Oh, mais vieux! Tellement vieux cet homme-là qu'il ne lui restait rien qu'un dent dans sa bouche, et cette dent-là, tellement longue qu'il s'en servait comme canne à marche. Un visage tellement ridé, on aurait dit un labyrinthe pour tester l'intelligence des larmes. Mais ses yeux, ah! Des yeux qui brillaient, qui brûlaient. Et pointant un doigt vers le chasseur, il dit « Chasseur, chasseur, Tu vas jouer avec les dés en os. Jouer. De la musique aux oreilles du chasseur, il était tellement content. On va jouer pourquoi? Si tu perds, je vais te prendre ta lance. Ma lance, elle est faite en cœur de chêne. J'ai fait un an de travail pour façonner la tête de cette lance-là. Qu'est-ce que toi tu as qui est... Mais le vieux qui fouille dans ses ripailles, et il sort une noix. Une noix! Tu me prends pour un fou. Une noix contre ma lance. Ce n'est pas une noix ordinaire, a dit le vieux. Et séparant à peine les deux moitiés de la noix, il y a une lumière dorée qui est sortie. Regarde à l'intérieur. Et le chasseur se penche et il regarde à l'intérieur de la noix. Et là, il voit un pré. Un pré qui est fleuri avec toutes les fleurs de l'été et du printemps. Et dans ce pré, des bêtes. Des bêtes qu'il ne connaissait pas. Lui qui connaissait toutes les bêtes du forêt. Des bêtes d'une beauté, d'une élégance, d'une grâce. Et derrière eux, des collines. Et derrière les collines, des montagnes. Des montagnes qui avaient leur tête dans les nuages. Donne-moi les dés. Alors il prend les dés. Il crache pour le loch. Il roule les dés. Et il perd. Et le vieillard lui prend la lance. Mais en regardant le chasseur, il dit, « Tu vas jouer encore. » « Qu'est-ce que tu vas me prendre si je perds? »
« Ah, si tu perds, hein, je vais te prendre arc et flèche. »
Mon arc, mes flèches, 3 journées que j'ai passées en haut de la montagne, attendre jusqu'à ce que l'aigle atterrisse. J'ai encore les marques des griffes sur mes avant-bras. C'est avec les plumes de cet aigle-là que j'ai fait mes flèches.
Oui, mais si tu gagnes, je te redonne la lance et je te donne la noix.
Donne-moi les dés. Alors il prend les dés, crache pour le loch, il les roule et il perd. Il tend arc et flèche au vieillard, mais le vieillard le regarde et dit,
Chasseur, tu vas jouer encore.
Tu m'as pris lance, arc et flèche. Je n'ai plus rien à jouer. Qu'est-ce que tu veux m'enlever maintenant?
Si tu perds, je vais t'enlever de ce monde-ci. Tu ne reverras plus tes compagnons de la chasse et de la fête. Tu ne reverras plus tes enfants. Ni ta femme.
Et il pensait à ses compagnons de la chasse et de la fête. Il pensait à ses enfants. Mais surtout, il pensait à sa femme. Elle qui était si belle, qui pensait que la terre était un tapis fleuri pour ses pieds. Mais il pensait aussi aux bêtes.
Donne-moi l'idée. »
Il prend l'idée, crache pour le lac, et il roule l'idée. Et il perd. Et il perd connaissance. Il tombe à la vitesse de la noirceur. Il tombe, il tombe, il tombe. Jusque ce qu'il n'y a plus rien sauf le son des étoiles. Puis rien. Rien.
Hey! Oh! Arrête! Ça fait mal! Arrête ça!
Il ouvre ses yeux. Elvire est penché. Et pointant le doigt vers le chasseur à terre, il dit
« Chasseur! Chasseur! Tu vas jouer encore! »
Il s'hisse sur un coude et regarde. Il est dans un pré et juste là, si proche qu'il peut presque les toucher. Sans les bêtes. Il se relève. Il est dans ce monde-là. Il regarde les bêtes. Il tourne vers le vieillard et dit « Pourquoi tu veux qu'on joue maintenant? Tu m'as tout enlevé. Qu'est-ce que tu veux m'enlever maintenant? »
« Si tu perds, si tu perds, je vais t'enlever de ce monde-ci aussi. Je vais t'enlever de tous les mondes. Ça va être comme si tu n'as jamais existé. Mais si tu gagnes, je te redonne arc et flèche, je te redonne la lance. » Et je te permets de retourner chez vous. Et tu peux amener de ces bêtes-là avec toi.
Donne-moi l'idée. Il prend l'idée. Il les roule. Et cette fois-ci, cette fois-ci, il gagne. Elvire lui donne lance, arc et flèche, et tournant, il pointe les bêtes.
Appelle-les, elles vont te suivre. Alors il se tourne.
Il appelle les bêtes, et elles ont suivi. Et il tourne, et il marche, et il marche, et il marche. Il tourne, il les appelle, et elles ont suivi. Il tourne, et il marche, marche, marche. Il tourne, il les appelle, elles ont suivi. Il tourne, et il marche, marche, marche. Il a marché tant et tellement qu'il est venu jusqu'ici. Et c'est comme ça que les chevaux sont arrivés dans le monde.
Natif du sud-ouest de l'Irlande, Québécois d'adoption, Mike Burns compte depuis 47 ans. Son répertoire est composé de légendes et de contes de sa région appris de son père et de sa grand-mère. Certains sont millénaires et sont issus de la tradition orale la plus pure. Assis sur sa chaise, les yeux fermés, le conteur Mike Burns raconte ses histoires vieilles comme le monde. En comptant les yeux clos, il ramène le public à l'une des plus récurrentes et mystérieuses figures du conteur, celle du conteur aveugle. Il est celui qui, un soir, soudain, sans aucune préméditation, laisse jaillir de sa mémoire un mythe qu'il n'avait pas raconté depuis 25 ans, et les mots sont en lui comme des peuples vivants en attente de ce voyage. Il sait maçonner son récit pour que l'histoire, l'ancienne, rejoigne celle terrible d'aujourd'hui. Un jour, au lendemain d'une de ses racontées, je lui ai demandé Ça doit être fabuleux ce que tu vois derrière tes paupières pendant que tu racontes. Et Mike Burns de répondre en laissant monter un grand sourire. Oh, t'imagines même pas. Dans un article paru dans La Grande Oreille, il développe ainsi. Quand il se passe vraiment quelque chose, c'est pas moi qui compte. Mais je suis comptée par le compte. Je sors moi-même du chemin, on oublie tout. Ce sont des voix qui nous parlent de si loin, des origines de l'humanité. Je pense que le conte peut toucher des gens dans le sens de voix si anciennes. Les contes peuvent être durs, crus, branchés, urbains, mais ce phénomène, le racontage en tant que tel, ça nous berce. Ça nous prend dans ses bras, on partage les joies, les absurdités, les tristesses, les pertes. Toute l'humanité est là. Chacun qui raconte. Ça fait comme un kaléidoscope, ça révèle autant encore un autre bout. Un mandala qu'on n'avait encore jamais vu auparavant, c'est comme regarder la lumière sur le fleuve. Combien de fois j'ai marché sur la grève? Des rochers, des bouts de bois, toujours, toujours, j'y trouve quelque chose qui va m'émerveiller. Le conte nous arrive de la même façon.
Qu'est-ce qu'il y a?
Des nouveaux.
Comment sont-ils?
Un garçon et une fille avec des cheveux blonds et des yeux bleus, tous les deux.
Jeune?
Tout jeune.
Bonjour, enfant. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Vous apportez des nouvelles? Est-ce vrai que le monde existe? Est-ce vrai que le soleil brille?
Oui, c'est vrai. Nous l'avons vu.
Comment est-il?
Il brille. Il est tout jaune.
Il est doré quand il se lève et tout rouge quand il se couche.
Et la lune aussi, nous l'avons vue. Et nous pouvons vous dire comment ça marche.
L'oiseau nous a tout expliqué.
L'oiseau? Ils ont vu aussi un oiseau. Je vous l'avais dit, les amis, nous sommes sauvés. Le monde existe, le soleil brille. Et il y a aussi des oiseaux. Ah, la vie est belle. Nous verrons tout cela un jour. En avant la musique!
Jacques Lucéran n'a pas 8 ans quand il perd la vue après une chute qui lui fait heurter violemment un bureau de son école. Ça commence souvent comme ça, une histoire. Avec un accident. Il plonge dans une nuit qui pourtant ne sera pas la nuit. Il va voir autrement. Les yeux font les couleurs, dit-il. Mais ces deux organes confus et fragiles en avant de la tête ne sont que des miroirs. Les deux miroirs brisés, les yeux continuent de vivre. Les vrais yeux travaillent au-dedans de nous. Voir, c'est un mouvement de la vie fait en nous avant les objets. C'est au-dedans de vous que vous voyez. Les voyants parlent toujours de la nuit de la cécité. De leur part, cela est bien naturel, mais cette nuit-là n'existe pas. À toutes les heures de ma vie consciente et jusque dans mes rêves, je vivais dans une continuité lumineuse. Sans les yeux, d'autre part, la lumière était beaucoup plus stable qu'elle ne l'était avec les yeux. Je voyais l'univers comme étant tout entier dans la lumière, existant par elle, à cause d'elle. Même chose avec les bruits. Depuis que j'étais aveugle, je ne pouvais plus faire un geste sans provoquer une avalanche de bruit. Si j'entrais dans ma chambre le soir, je faisais un pas, le plancher, pleurer ou chanter, et cette chanson se communiquait de pièce de bois en pièce de bois jusqu'à la fenêtre, me racontant la profondeur de la chambre. Si je parlais tout à coup, les vitres qui avaient l'air de si bien tenir dans leur gaine de mastic tremblaient, très légèrement bien sûr, mais distinctement. Un bruit plus clair que les autres, plus frais, annonçant déjà l'air du dehors. Tous les meubles craquaient, une fois, deux fois. 10 fois. Ça faisait un sillage de sons qui, au long des minutes, figuraient comme des gestes. Réellement, le lit, l'armoire et les chaises s'étiraient, bâillaient, respiraient. Si la porte était poussée par un courant d'air, elle grinçait courant d'air. Si elle était poussée par une main, elle grinçait humainement. Ça, je m'y trompais pas. Le plus petit renfoncement dans le mur avait une manière de se faire entendre à distance, de modifier toute la pièce à cause de ce recoin, de cette alcôve. L'armoire d'en face chantait plus creux. Bref, C'était comme si autrefois les bruits avaient toujours été à moitié réels, faits trop loin de moi, à travers un brouillard. Peut-être était-ce mes yeux qui créaient autrefois ce brouillard. En tout cas, mon accident avait précipité ma tête contre le cœur bruyant des choses. Ce cœur battait et ne s'interrompait plus. Et Jacques Lucéran de poursuivre. Toutes ces expressions de la conversation courante, il donne confiance. Il a l'air bien élevé, me paraissait prise juste à la surface des gens. C'était la mousse, ce n'était pas le breuvage. De mon côté, j'avais une idée des personnes, une image d'elles, mais qui ne coïncidait plus avec celle du monde. Bien souvent, je les voyais à l'envers de tous. Il se formait dans mon esprit des images d'hommes et de femmes sans tête, sans doigts, ou au contraire cette dame au fond d'un fauteuil d'un seul coup se ramassait dans son bracelet, elle devenait bracelet. Il y avait des personnages dont les dents occupaient toute la figure et d'autres si harmonieux qu'ils avaient l'air tissés de musique. Mais en réalité, tous ces spectacles ne sont pas faits pour être décrits, ils sont si mobiles, si vivants qu'ils défient les mots « non ». Les gens ne ressemblaient pas à ce que l'on me disait d'eux, et surtout ils n'étaient jamais les mêmes, 2 minutes de suite, ou alors, si, quelques-uns. Mais c'était mauvais signe. C'était signe qu'ils ne voulaient pas comprendre ou pas vivre, qu'ils étaient pris dans la glu d'une passion malpropre. Et cela, chez eux, je le voyais tout de suite, car, n'ayant plus sous les yeux leur visage, je les attrapais par surprise. Les gens n'ont pas l'habitude. Ils ne font toilette qu'au dehors. Un homme qui parle ne sait pas qu'il se trahit. Quand les gens s'adressaient à moi, le petit aveugle, ils n'étaient pas sur leur garde. Ils étaient persuadés que j'entendais les mots qu'ils disaient, que j'en comprenais le sens. Ils ne se doutaient guère que je lisais dans leur voix, comme dans un livre. Il existait donc une musique morale. Nos appétits, nos humeurs, nos vices secrets et même nos pensées les mieux retenues se traduisaient en son dans notre voix. En son ou en inflexion, en rythme. 3 ou 4 notes de trop, les unes trop proches les unes des autres, dans une phrase disait la colère, même si rien chez celui qui parlait ne la montrait aux yeux. Quant aux hypocrites, ils étaient reconnaissables sur leur chant, leur voix était tendue avec des intervalles légers mais brusques entre les sons, comme s'ils avaient décidé de ne jamais la laisser aller où elle voulait. Le 18 juin 44. Jacques Lucéran n'a pas 18 ans. Il entend l'appel du tout jeune général de Gaulle et c'est un oui définitif qui monte. Des profondeurs, il entrera en résistance avec quelques amis de son âge. Ils seront les volontaires de la liberté. Le journal qu'ils éditeront alors deviendra plus tard l'actuel France Soir. Jacques Lucéran est aveugle et pourtant, ou peut-être grâce à cela, il deviendra le chef du mouvement. Parce qu'il voit finement et qu'en ces temps difficiles, c'est devenu crucial de lire au-delà du signifié, on lui confie d'éprouver les potentiels recrues. À chaque nouvel entretien, il entre en lui, dans cet espace secret à l'intérieur duquel tout devient limpide. De l'extérieur, certains diront que dans ces moments-là, il a l'air tout à fait parti, absent à l'autre. De cet endroit, pourtant, il voit et lit chaque signe. Lorsqu'on lui présente un certain Nivelle, récemment pressenti pour intégrer le groupe de résistants, il lui suffira d'un bonjour, claquant et sonore à son entrée pour décider de lâcher ce type de toute urgence. Sa voix chaude, ses paroles bien rondes lui faisaient un visage que j'avais d'abord vu, mais sous ce visage, il y en avait un autre immédiatement perceptible, et cet autre, tantôt fuyait, se pelotonnait, revenait en avant malgré lui, ça faisait comme une boursouflure, ce type avait des cloques dans la voix. Quelques mois plus tard, ce même type sera aperçu parmi les membres du service de l'ordre du Rassemblement populaire, en train de hurler avec les autres « Heil Hitler !». Quand on lui présentera un certain Hélio, il le verra barré d'une lumière noire et son jugement ne parviendra pas à sortir d'une forme d'oscillation et il ne tranchera pas. Et Hélio les rejoindra et œuvrera avec zèle au sein du groupe de résistance. Tout le groupe sera arrêté puis déporté. Lucéran découvrira que c'est ce même Elio, infiltré, qui les aura tous dénoncés. Jacques Lucéran, à 18 ans, est déporté à Buchenwald, au sein du bloc 57. Il va être entassé parmi tous les 100, les privés, les amputés, jambes de bois, manchots, privés de la vue, privés d'esprit, un beau tas de manquants au centre duquel Lucéran va goûter la texture complexe de notre humanité profonde. Au royaume des amputés, l'aveugle est un membre à part entière. Lucéran ne verra pas les horreurs de Buchenwald. Elles vont le traverser. Il va sentir la mort rôder, fauchée, sentir l'odeur, la texture de la peur, goûter ce qu'il appelle l'odeur morale du groupe. Et les sens en éveil, il va oser interpréter chaque signe, même à contre-courant de ce que le bon sens premier induit pour survivre. Il échappera de justesse à la mort à 3 reprises. Dans l'innommable bourbier de Buchenwald, il connaîtra l'amour et ce que certains nomment l'illumination. Le premier homme que Jacques Lucéran va rencontrer dans ce bloc 57 se nomme Jérémy Regard. Ça s'invente pas. Jérémy Regard. Le reste du bloc va l'appeler Socrate. Et il va faire un passage lumineux dans le bloc. Il va être un véritable phare pour tous ses occupants. Oedipe, dans sa nuit, s'apprête à offrir au monde le dernier de ses souffles. Autour de lui, depuis des lustres, les érinnies tournent et les serpents qui ornent leurs crânes sifflent, persifflent et lancent au galop les chevaux d'écume qui émoussent la conscience et font le vague à l'âme. Oedipe n'entend plus rien. Il a fait ce qu'il devait faire. Tout est comme il se doit. Tragique. Dans cette nuit qu'il s'est offerte en crevant ses yeux, il goûte le bonheur de connaître au-delà du visible, sentir et lire ce que sont les choses au verso du regard. Il entre en lui, chemine dans sa nuit qui n'est pas noire. Il a connu les longues marches sans but, sans autre guide que le bras de sa fille Antigone. Il a connu la poussière du chemin, le tranchant de la pierre, les hauts et les bas d'une marche sans fin. Oedipe. Les yeux crevés s'offrent aux caprices du chemin, son bâton à la main. Il y apprend le son de chaque pierre sous son pas, le frottement, le raclement, les boulis qui dessinent en ondes de choc les contours du paysage, la profondeur du champ et la courbe du voyage. Il apprend Antigone, la présence de sa longue, grande fille, la main d'Antigone à son épaule qu'il ressent permanente alors qu'elle ne le touche pas toujours. Sa présence douce et obstinée, ce don de l'être total. Il apprend le battement du cœur à sa tempe. Son propre cœur, mêlé au battement de sa fille, parfois à l'unisson, qui percute en écho les battements du monde. Et ce battement rythme la marche. Et il chante. Lui qui sait. Lui qui connaît des chants capables de réveiller les pierres, de parler aux oiseaux, de faire danser le ciel à l'unisson de la vague. Ces chants perçant au cœur des choses et des êtres. Dans le dépouillement et la cécité, Oedipe apprivoise sa nuit et savoure de ne s'y trouver jamais seul puisque, Antigone y est un phare qui le guide vers Colone. Œdipe chemine jusqu'à la forêt interdite où l'attendent les Érinies. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Les Érinies à la chevelure de serpent sifflent au-dessus de la tête d'Œdipe. Œdipe le maudit, le parricide, l'incestueux. Elle siffle le remords et éprouve le roi déchu. Sa lignée est maudite, mais Œdipe ira au bout du chemin. Il entrera dans la forêt. Il puisera de l'eau pour étancher la soif de sa fille. Et puis il s'enfoncera, jusqu'à s'effacer dans cette nuit désormais peuplée de lumière. Parce que Œdipe, maudit, pieds gonflés, yeux crevés, exilé, n'aura rien perdu en chemin. Œdipe sait désormais, il voit en lui comme en un puits de lumière. Et il rayonne de cette lumière qu'aucune ténèbre ne saurait inquiéter. Œdipe connaît l'amour. Si vous avez envie de plonger un peu plus dans ces nuits peuplées, je vous invite à lire les deux magnifiques livres de Jacques Lucéran, « Et la lumière fut » et puis « Le monde commence aujourd'hui ». Je vous invite également à plonger dans la prose sublime d'Henri Beauchaud avec son Œdipe sur la route, sur lequel je me suis appuyée pour écrire cette émission. Et puis je vous invite aussi à découvrir le conteur Mike Burns aux éditions Oui Dire. Puis si vous ne l'avez pas encore fait, ou si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, allez voir ou revoir Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud et Jacques Prévert. Voilà. Sur le bout de la langue, c'est fini pour ce mois-ci. Je remercie Pauline Lemaire des Marais et Harmonie Perrault pour la réalisation. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission sur les ondes de Radiola.